ferme.
Même, est-ce que vous ne trouvez pas que votre succès, justement, est un peu exagéré?
Les fonds de tiroir.
L'amateur de radio reçoit 200 disques par semaine. Sur ces 200 disques, ils vont passer peut-être une cinquantaine.
De la folk au krautrock. L'émission qui déterre les vieux machins.
Devant une fille.
Sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, vous êtes bien sur les fonds de tiroir. Salut Paul, comment ça va?
Bah ça va et toi André?
Eh ben ça va, c'est le dernier épisode de la saison. Ça y est.
Ça y est, on y est.
On est sur nos coups de cœur, on est sur un épisode coup de cœur ce soir pour terminer la saison en beauté. Qu'est-ce que tu nous as concocté, toi, dans ton petit côté, ta petite sélection?
Eh ben, moi, ce soir, on va continuer à déterrer des vieux machins. Moi, je suis parti sur une programmation très garage 60s et très post-punk fin 70, début 80.
Yes, yes, yes.
Et toi, mon petit André?
Eh ben, moi, je suis resté, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, donc je suis resté vraiment sur la fin des années 60, début des années 70, avec du bon psych-rock, comme j'adore le psych-rock, de la folk blues, un peu d'expérimental, un peu truc chelou. Et on va démarrer ça de suite avec Stone Maine et Faded Colors.
C'était les Stone Men avec Faded Color pour bien commencer cet épisode.
Alors les Stone Men, c'est un peu mon alerte pépite oubliée que personne ne connaît. Parce que les Stone Men, c'est des petits gars du Canada. Alors je sais plus de quelle province ils viennent, je l'ai lu mais je me rappelle plus. Mais c'est des deux frères et un gars qui est issu d'une grande famille de tailleurs de pierre, d'où le nom du groupe les Stone Men, qui ont décidé de créer un groupe de garage un peu dans leur université à la fac quoi. Et en 64. Et donc rien que pour avoir cette information, ça a été ultra compliqué. J'ai digué tous les internets mondiaux pour trouver juste ça. Pourquoi ? Parce que, en fait...
Bah, non, mais le coup des tailleurs de pierre, c'est intéressant. Et on en profite pour dire vive l'artisanat. Voilà. Tous ces métiers qui sont en train de mourir, mais c'est, bon, c'est peut-être pas le sujet, du coup.
Bref, et du coup, ouais, non, mais rien que pour avoir ça, c'était ouf, parce que, tout simplement, mis à part ce CD de titres qui contient Faded Color, qui a été enregistré en 67 et qui a été tiré à 1000 exemplaires, rien d'autre des Stone Men. Plus rien après, c'était vraiment un one shot, quoi. Et si bien que, bah, en gros, c'est presque devenu un des singles les plus rares du monde, en tout cas dans le sous-genre du garage.
Oui.
Bref, en 2016, il y a quand même un gars qui a acheté ce single 25 000 $. 25 000 $. Et c'était quasiment le dernier.
Dollars of America.
En circulation. Dollars of America.
Oh là.
C'est le dernier en circulation. Bref, c'était un peu pour démarrer une hymne aux oubliés, hein, parce que c'est un peu ça le kiff, le sel de notre émission, et aussi à l'amateurisme.
Exactement, et on se fait une émission coup de cœur. Donc on va forcément passer du garage 60s parce que c'est un peu la base c'est un peu notre base commune qu'on a tous les deux. Et qu'est-ce qu'on aime dans le garage ? Eh ben c'est l'énergie, bordel, et c'est, comme tu le disais, l'amateurisme en tant que musicien plutôt à chier. Alors, on est tous les deux. Alors, faut savoir qu'on est tous les deux des musiciens à chier.
Ouais. Et déjà, pour moi, c'est un bien grand mot.
Ouais, des gratouillous. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui, certes, sont comme nous des musiciens à chier, mais qui ont suffisamment d'énergie pour te faire vibrer avec 2-3 accords. Une belle gueulante, et c'est tout.
Et c'est tout, ça suffit quoi.
Et en parlant de grosses patates, on va s'écouter Bad Girl de She, un groupe américain, un girl band américain de 1966. J'ai pas plus d'infos, vive l'amateurisme. Alors, faut savoir qu'on fait une émission où on a un seul casque, on est en train de se le filer, donc on peut qu'approuver ce message. Merci. C'était Bad Girl du groupe She.
Et en parlant d'amateurisme et de gens qui n'ont pas réussi à percer, y a un groupe qui avait tout pour crever les enceintes, comme on dit, mais qui n'ont jamais réussi. C'est Morgan. Morgan, c'est du genre de groupe maudit, c'est dans mon top 5, quoi. Ils avaient vraiment des musiciens incroyables, un mec ultra inspiré au niveau de l'écriture. C'est l'histoire aussi d'une relation fusionnelle entre Steve Morgan et un chanteur du groupe, le chanteur du groupe, et Murray Schifrin, qui était guitariste. Fusionello chelou, quand même, tu vas voir.
Fusionello chelou.
Ouais.
Alors, va falloir nous éclairer, André, sur ce terme.
Accompagné par les pas moins talentueux Mike Ratti et Bobby Rizzo, respectivement à la batterie et à la basse. Mais c'est surtout l'histoire de Stuart Crane, un manager véreux qui, comme il y en avait beaucoup à l'époque, et aussi du label ABC qui voulait s'offrir une nouvelle virginité underground avec sa branche progressive Prob. Ok, une
D'accord.
fois que le décor il est planté, je vais t'expliquer que c'est vraiment amour, gloire et beauté ce groupe. Amour, gloire et beauté au pays d'Alice, au pays des merveilles hein, quand même. Parce que entre l'ami amant Murray qui veut prendre la place du chanteur Steve, le manager qui menace Steve avec un flingue pour prendre le pouvoir du groupe, un film documentaire avorté, un album qui n'a failli jamais sortir du fait de la pochette avec le cri d'Edward Munch dessus et la mort de Murray comme point final de ce drame en 4 actes.
Putain, il manque Rick et Brooke et on coche toutes les cases.
C'est n'importe quoi ce groupe. Bref, tout ça pour dire que avec cet album éponyme, ça te sert du bon gros rock psyché bien lourd avec dès le premier morceau Welcome to the Void qui annonce la couleur, un trip psychédélique bien vénère, une véritable descente de LST violente et rageuse, assaisonnée de références à la littérature enfantine un peu glocky-glocky style le conte des frères Grimm, tu vois.
D'accord.
C'est quand même une sacrée ambiance.
Bah ça fait un sacré teasing, on a hâte d'écouter ça, André.
Donc je vous mets Welcome to the Void de Morgan.
Of my gingerbread house and let your troubles fade away. Let your mind get away from the fall. I say welcome to the void. Did you know that Peter Pan can fly? He just pats himself with dust. I'll get you some if you're a very good boy, and if in me you put your trust, I say welcome to the void. I say welcome to the void. Jack be nimble, Jack be quick. Jack, jump over the candlestick. Out said Jack as he touched the lighted wick. My God, you know that fire burns. Old woman, she lives in a shoe. What a very funny thing. She's really happy for today she received 40 red, white, and blue shoestrings. Beauty did catch the beast, and then much to her surprise, a handsome prince did then appear, and then the beast scratched out his eyes. I say welcome to the void. I say welcome to the void. If you're good and if you watch your ways, one day to heaven you will go. You will lose everything you've ever known before. Who cares? It's better than below. I say welcome to the void. I say welcome to the void. Pretty flower,
flowers and a bright yellow sky. Little squirrel gathering food. Picnic's over, it's time to go home. What's for dinner, squirrel stew? Did you hear about Sam's Uncle Joe? Got lots of heads upon his wall. He stands 100 yards behind the cheetah's glass. Oh, he's the bravest of them all. Fall, 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 fall. Did you know that a good man died? Oh, how terrible they say. But you know that's just a part of life. It kind of happens every day. No!
Et donc c'était Welcome to the Void avec de Morgan.
Bah merci, en tout cas on n'est pas déçus parce qu'on a eu quand même un sacré teasing, c'était fou.
Et c'était bien vénère quand même.
C'était bien vénère, c'était excellent et moi je vais calmer un peu le jeu. On va se mettre Eddie Peregrina and the Blinkers.
Un petit changement dans l'ambiance. Mais toi t'es en mode lovey-lovey ce soir, je sens que t'es...
Ouais.
C'est
tu trouves
l'été? C'est l'été?
C'est l'été qui arrive peut-être. Je ne sais pas.
En tout cas, très belle sélection.
En tout cas, Eddie Peregrina, c'est un jeune philippin. Quand on parle de garage des années 60, on peut distinguer un peu deux styles. Les sons qui inspireront 10 ans plus tard toute la vague punk de 1977. Et ceux qui sont certes un petit peu crado, mais qui sont beaucoup plus mélodiques. On appelle ça le Moody Garage, le garage des modes, en référence à ce mouvement précurseur du pop rock. Et on va tendre à ça avec Eddie Peregrina and the Blinkers, avec ce son Love for Sale. Alors Eddie, il deviendra plus tard une idole aux Philippines dans les années 70. Il était jeune à l'époque, j'adore sa voix fluette de jeune ado.
C'est très...
On se le balance.
Allez, on se balance Eddie Peregrina avec Love for Sale. Thank you. et c'était Eddie Pellegrina, Low for Sale.
Et on va s'enchaîner avec The Outcast. Alors, ne pas confondre avec Outcast. Hey, yeah. Allez, il nous faudra un petit générique comme ça. On va continuer sur du Moody Garage. Alors, si vous aimez bien le Moody Garage, je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube qui s'appelle My Moody Hurt. Il y a 920 vidéos, je crois. J'ai regardé ce matin.
YouTube de l'enfer.
Ouais, de l'enfer, mais n'empêche que t'as quand même 920 trucs complètement perdus. Et donc je vous conseille, on va s'écouter The Outcast. Et le son c'est Loving You Sometimes. Et oui, parce que parfois on aime et parfois on n'aime pas.
Allez, on s'écoute ça.
C'était The Outcast avec Loving You Sometimes.
Et ben moi aussi, je vais partir plus dans des trucs smooth, plus dans des trucs, des ballades un peu mélodiques avec Peanut Butter Conspiracy. Bon, on va
la conspiration du beurre de cacahuète.
Exactement ça, on va pas se
mentir. Oh, t'es en forme toi ce soir.
C'est un peu un nom de merde, mais comme il y en avait beaucoup à l'époque, hein, parce que les Strawberry Alarm Clock, les Electric Prunes, les Big Brother and the Holding Company, et autres Trolley Company, je sais plus quoi, Peppermint Trolley Company, hein. Bref, ils avaient un peu des noms de merde à l'époque, ils avaient un peu pris trop de drogue. Et du coup, Peanut Butter Conspiracy, donc la conspiration du beurre de cacahuète, n'échappe pas à la règle. Néanmoins, pourquoi je vous parle de ce groupe? Parce qu'il est né des cendres d'un ancien groupe qui s'appelait les Ashes.
Excellent. Pour ceux qui parlent pas anglais, Ashes ça veut dire cendre.
Voilà, les Peanut Butter.
C'est ça la vanne.
Butter Conspiracy, c'est un peu aussi des. C'est pas des amateurs pour le coup, mais ils sont. C'est pas vraiment maudits non plus, mais ils ont un peu raté le train. C'est un peu comme ça que je les définirais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mélange des standards de la culture West Coast de l'époque, hein, à mi-chemin entre un Jefferson Airplanes et un Mamas and Papas, mais après eux, quoi. Tu vois? Donc, bon, c'était plus trop la tendance. Bah, du coup, rien de très folichon. Pourquoi je vous parle de ce groupe? Bah, c'était sans compter la chanteuse Barbara Robison. Parce que Barbara Robison, elle a une putain de voix. Des vraies cordes vocales et un style incroyable. Dès leur second album, il y a donc l'album s'appelle The Great Conspiracy, sorti en fin 67. Barbara et Meryl chantent ensemble sur plusieurs chansons, comme sur Too Many Do, que je vais vous passer après. Et ça m'a fié des frissons. C'est un mélange entre style Papa's and Mama's, Jefferson Airplane. Et franchement, ce mix des deux voix ensemble, ça m'a fait kiffer de ouf, quoi. Voilà, donc rien de plus, c'était vraiment juste pour ce kiff-là.
Bah oui, bah coup de cœur, écoute, c'est le thème, André.
Juste pour la petite anecdote, Barbara a eu droit à une compilation posthume en 2014, imaginée par le bassiste des PBCs, Alan Brackett. Donc je vous conseille vraiment de l'écouter. Ce problème, c'est qu'elle s'appelle Barbara. Donc c'est pas facile à googler, quoi, parce que bon, y a quand même une chanteuse française qui...
Il pleut sur Nantes.
Mais si vous arrivez à le trouver, bah écoutez-le, parce que ça vaut vraiment le coup. En attendant, on s'écoute Too Many Do des Peanut Butter Conspiracy.
to your nest up on the ground. Take me in, don't throw me out all alone.
Et oui, on est dans une émission coup de cœur, donc on va continuer à faire du grand n'importe quoi. Un Glooby Boulga, moi je vais partir sur une BO d'un film de science-fiction de 1969, une coproduction japonaise et américaine. Vas-y André.
Non, rien, c'était juste pour dire qu'on a un peu parlé de films et de musique et que ça fait toujours plaisir de parler de musique de film.
Je te sens très ému ce soir André. Et donc je vous fais une petite mise en bouche, je vais vous faire le teaser de ce super film. Et donc on va s'écouter ensuite la BO. Alors c'est un groupe d'astronautes qui a pour mission d'exploser un astéroïde nommé Flora en route pour une massive collision avec la Terre. Donc jusque là on est sur un truc assez classicos. Bon bah forcément ils attiennent l'astéroïde. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un astéroïde? Qu'est-ce que tu aurais fait toi?
Je sais pas.
Bah eux ils l'ont bourré d'explosifs parce que sinon il allait éclater la Terre. Et ils s'en tirent de peu parce qu'il y a une méga grosse onde de choc. Et ils sont à deux doigts de se faire fumer. Sauf que malheureusement, un des scientifiques, il ramène de cette mission une espèce de substance un peu verdâtre, très chelou, qui s'accroche à sa combinaison spatiale au niveau de sa jambe. Alors bon, du coup, il se pose sur la station spatiale, qui s'appelle Gamma 3, et il se rend compte du merdier. Oh là là, t'as un truc verdâtre chelou sur la... sur la jambe. Trop tard, le machin vert se transforme en monstre multitentaculaire qui a décidé de tous les grailles. Ils tentent alors de le détruire grâce à leur pistolet laser, mais à chaque fois qu'ils mettent un coup de pistolet laser, ploup, 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 ça pop un nouveau monstre. The Green Slime, qui est le nom de la chanson qu'on va s'écouter. Ah oui, il y a une autre difficulté, parce que sinon ce serait beaucoup trop simple. C'est que les deux commandants de la mission, ils finissent par se tirer dans les pattes. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même meuf. Une scientifique. Alors la meuf, c'est une scientifique qui est dans une combinaison moulante.
Bah forcément.
Argentée.
Les années 60, hein, bon, ils sont un peu macho-macho-mel.
Mais en tout cas, on va s'écouter Richard Del Vecchio, Green Slime, 1969. Open the door, you'll find the sea. The answer is to keep it. You'll believe it when you find something screaming cross your mind. Green slime. What can it be? What is the reason? Is this the end to all the reason? Will you believe it when you're dead? Green slime. Man has looked out to space in wonder for thousands of years, sometimes thinking that life could be somewhere. And now it's here. Is it just something in your head? Will you believe it when you're dead? Green slime, green slime.
Slime.
Oh, quel organe.
Donc c'était Grim Slime de
Richard Delvecchio.
Des Richard
qui a été repris dans les années 80 par les Fuzz Stones. Si, si vous aimez les Fuzz Stones.
Je savais pas qu'ils avaient repris.
Non, tu le sais. Voilà, je te balance l'info.
Grave. Et ben moi aussi, en parlant de surprise, je vais vous parler des St. John's Green.
Mais c'est quoi les St. John's
Green? Les St. John's Green, j'ai découvert ça assez récemment. Il faut bien admettre, un peu par hasard. Parce que je sais pas, j'avais envie de diguer un peu du rock d'Asie, asiatique. Et il y avait un gros dragon stylisé plutôt asiatique. Et en fait, c'est pas du tout ça, groupe américain.
D'accord.
Voilà. Donc j'ai écouté ça. Et maintenant, ça fait partie de mes putains de classiques. Pourtant, j'aurais pu tomber dessus plus tôt.
Est-ce que c'était une Madeleine de Proust parce que tu portais des chemises dragon quand t'étais à l'école?
C'est exactement ça. Ah. Et puis Yu-Gi-Oh! Style, le dragon aux yeux bleus, ma dragon dans
les
yeux bleus.
Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Hein. Pardon.
Bref, et pourtant non, mais j'aurais pu tomber dessus bien avant, parce que ce petit groupe de LA a notamment été produit par Kim Foley. Alors,
d'accord.
Si vous avez jamais entendu parler de Kim Foley, ce gars a accompagné, produit et écrit pour une tétrachier de groupes cultes, que ce soit les Birds, les Mermaids, les Seed, les Renegades, les Runaways, Alice Cooper, Scorpion et j'en passe. Il a même écrit pour le cinéma et composé pour le cinéma, notamment pour des films aussi stylés que le Green Slime, hein, comme Vampire from the Outer Space. Oh, les vampires de l'espace, c'est quand même pas mal. Donc voilà, bref, quand Kim Foley s'intéresse à toi, c'est plutôt bon signe, quoi. Du coup, quand les petits gars de St. John's Green, Baxter, Sabino, Bissot et Kirkland rencontrent Foley en 68 et qu'il les encourage à développer leur style, notamment en s'inspirant du Topanga Canyon Sound, ça sent bon pour eux. Mais tu vas me dire, qu'est-ce à quoi le Topanga Canyon Sound?
Qu'est-ce à quoi le Topanga Canyon Sound?
Eh bah, ça pourrait être un mélange de folk terreuse, de drogue de cactus et d'harmonica autour d'un feu de camp à la belle étoile, j'en sais rien.
Tu utilises tellement d'images.
Difficile à dire parce qu'on n'a quasiment aucune info là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que à l'époque, il y avait un autre truc qui venait d'émerger quand même, c'était toute la scène folk rock issue de Laurel Canyon, je vous renvoie au premier épisode des Fonds de Siroir, donc à Los Angeles au milieu des années 60, donc peut-être c'était un petit truc pour concurrencer ça. Bref, tout ça pour dire que Foley crevait d'envie de devenir le chef de file de ce mouvement du Topanga Canyon Sound.
Gangnam Style.
Les St. John's Green, tout comme Canet Heat, que vous connaissez sans doute, et Spirit, devaient en être les têtes de proue de ce mouvement-là. Bon, après, arriva ce qui arriva, forcément, un LP et puis s'en va, j'ai envie de dire. Ils font un LP en 68 et pour des histoires de divergence musicale, le groupe se sépare. Mais, je vous conseille énormément cet album et qui sait, peut-être que vous entendrez vous aussi le son du canyon de Topanga.
Et pourquoi?
Si vous savez, si vous arrivez à entendre ce son, tenez-nous au courant. Allez, on s'écoute. St. John's Green avec Spirit of Now.
une fois, tu nous as très bien présenté le morceau, c'était excellent. Merci André.
Donc c'était St. John's Green, Spirit of Now.
Spirit of Now. Et moi, je vais... Alors là, on va partir sur... Alors moi, je vais prendre un petit virage post-punk.
Allez,
je vais...
c'est parti. On part vraiment dans une émission coup de cœur où ça va partir dans tous les sens. J'aime ça.
Ouais, et voilà. Bon, moi, je suis resté sur l'année 79-80. Et on va commencer tout simplement par s'écouter The Television Personalities. Yes. Avec leur album Part-Time Punks qui claque bien, c'est des londoniens, c'est du post-punk et on va s'écouter Silly Girl.
Donc c'était Silly Girl de Television Personalities, un groupe qui a quand même un gros succès d'estime dans la, bah de, parmi les fans de post-punk.
Bah oui, parce que c'est vachement bien.
Parce que c'est vachement bien.
Ouais. Alors oui, bien sûr, une émission coup de cœur sans post-punk, c'est comme une émission sans toi André, un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Oh là là, c'est
comme dirait Dave.
Comme dirait Dave, putain.
J'adore
pompé, qu'on cite des grands auteurs et chanteurs comme ça dans cette émission.
Qu'il a pompé à Alphonse Lamartine. Mais moi je préfère citer Dave. Bref, mais qu'est-ce que c'est le post-punk? Mais qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est le post-punk?
Bah oui, parce qu'on le cale un peu partout et puis
on a un peu parlé pendant cette...
Ouais, et puis c'est un en général, voilà, on parle ouais, c'était entendu le truc un peu post-punk, c'était vachement bien. Voilà, et bah, qu'est-ce que c'est?
Tous ces bobos parisiens qui écoutent du post-punk revival là, c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi, et donc je voulais vous faire un mini résumé, alors c'est ma sauce, hein, tranquille. Donc pour résumer, je dirais qu'il y a une révolution punk en 1977. Alors j'ai entendu certains puristes dire que le punk, de toute façon, on peut le dater que de janvier à octobre 1977. Et en tout cas, on a toute cette vague qui a changé la donne. Nick, le rock progressif et ses morceaux de 20 minutes.
Quoi ? Non !
Au diable, les longs solos lancinants du hard rock et les résidus de messages hippies, No Future, une multitude de groupes fleurissent dans les milieux populaires britanniques, mais aussi américains et aussi un petit peu en France, avec les Oblivenstein notamment, et avec des guitares méga saturées, et ils créent leur propre code. Donc il y a pas de virtuosité, on retrouve l'amateurisme du garage dont on parlait juste avant. Trois cool. accords, on chante faux, on vous nique, on vous emmerde, on est vulgaire, je suis vulgaire. Bref, cette vague, elle va complètement changer le paradigme du rock et faire naître une tonne de styles dérivés qu'on peut catégoriser de post-punk. À tel point que des vrais musiciens s'en mêlent, des bons musiciens qui ont fait leur classe, ce qui donne une brutalité mais très mélodique et assez incroyable. Alors, contrairement à la New Wave de Joy Division qui met les synthés en avant, on garde des formations très simples avec guitare, basse et batterie. Voilà, c'était ça, c'est ça le post-punk finalement.
Tout ça.
Et on va bien sûr commencer par s'écouter Gang of Four et leur album Entertainment, un manifeste de post-punk de 1979. C'est un groupe de Leeds. Je vous donne un petit conseil pour écouter. Vous pouvez vous focaliser sur cette petite basse un peu funky, c'est ça qui va faire un peu le lien. Voilà, c'est très sympa.
Petit conseil de boom pour...
Ah, vous en faites ce que vous voulez.
On s'écoute Gangs of Four, Natural is not it.
C'était Natural It's Not It, The Gang of Four, The Gang of Four, pardon.
Mais du coup, le post-punk, c'est un peu le fait de prendre à soi un mouvement très populaire pour en faire un truc un peu bobo, un peu un truc d'élite, quoi.
Bah, pas vraiment, parce que alors je vous conseille le documentaire qui s'appelle Des jeunes gens modernes, qui explique très bien la culture post-punk et new wave en France, et en fait les mecs ils disent que qu'ils étaient des fils de prolo, mais qu'ils se donnaient des airs un petit peu intello, et que finalement ils étaient assez ignorants, et ça reste un mouvement extrêmement populaire, pour répondre à ta question, André. Alors c'est mon point de vue, hein, je suis pas un grand spécialiste.
Bon, ben, ok. Bon, on va enchaîner. Alors, moi, alors, rien à voir. Donc là, on commence à partir dans une sélection un peu qui part dans tous les sens. Mais moi, je voulais absolument vous parler, pour le coup, d'un coup de cœur. Vous allez me prendre sûrement pour un mec un peu chelou, mais j'en ai rien à foutre. Captain Beefheart and his Magic Band. Ouais, ça c'est un vrai coup de cœur chelou, mais je pouvais pas ne pas parler de Don Van Vliet, aka Captain, aka comme disent les jeunes, Captain Beefheart, avec son Magic Band. Il a inventé un style à part, à lui tout seul, tu vois, le mec, une sorte de free blues rock complètement fêlé, sur les bases du free jazz, quoi. Donc l'idée vraiment de pouvoir développer une musique sans normes, expérimenter comme il le souhaite. Il a notamment fait avec son ami le légendaire Frank Zappa, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un artiste couteau suisse, un peu dictateur illuminé. J'ai quand même vu qu'il gérait bien son Magic Band à la baguette, quoi. Extrêmement avant-gardiste. Bref, c'est un foufou, quoi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je kiffe ce mec, c'est un truc de malade. Et notamment un morceau sur son premier album avec le Magic Band, Abba Zaba. L'album est sorti en 67, ça a eu un succès très mitigé aux States, notamment du fait des lyrics complètement starbés et de son rythme assez déstructuré. Mais par contre, ça a bien plu en Europe, et notamment à une certaine personne, un certain John Lennon, qui pour faire un peu de pub à cet album, a placardé des autocollants promotionnels dans son appartement, dans sa maison, lors d'une séance photo. Oh. Sympa le John.
Très sympa.
Désolé, je pouvais pas ne pas parler encore une fois des Beatles. Il faut que j'en parle à chaque émission dès qu'il y a une anecdote sur les Beatles. Je suis obligé de la faire. Bref, on s'écoute. Captain Beefheart and his Magic Band avec Abba Zaba. Song before song, before song blues. That bitch babo.
Très zinzin, c'était
ouais,
Captain Beefheart.
C'était Captain Beefheart avec Abba Zaba.
C'était excellent et moi je vais continuer à écouter, à vous passer du post-punk. toujours la même
focus,
année.
Focus.
Ouais, j'avais besoin, j'adore le, j'adore tout ça. Je vais toujours rester en plus sur l'année 79-80 et je vous ai préparé une sorte de camailleux post-punk.
une nuance de post-punk.
50 Shades of Post-Punk. Et quoi de plus essentiel que d'écouter les Phillies et leur album Crazy Rhythms. Alors cette fois-ci, on a affaire à des ricains. Que dire ? Donc, c'est un nom, les Phillies, qui est inspiré d'une fiction d'Aldous Huxley. Aldous Huxley, pardon.
Oh là là.
L'auteur américain. Moi, je suis.
Ah, c'est tellement fait mon connard.
Très inculte. Ah ouais, incroyable. je me casse. Mais non, pas du tout.
Aldous Huxley, c'est le meilleur des mondes quand même.
Oui, bah ça va. Voilà, j'ai tapé Aldon. J'écris un manuscrit aussi. Bon bref, c'est très post-punk de s'inspirer d'écrivains en tout cas. J'entendais une interview de feu Daniel Dark, qui était le chanteur donc, de Taxi Girl, qui disait que sans le punk et sans tous ces mouvements-là, sans écouter en fait les Cure par exemple, il n'aurait jamais lu Albert Camus. Et donc on a un mouvement très populaire qui se la joue intello en costard. D'ailleurs Daniel Dark, dans ce documentaire Jeunes gens modernes, il dit qu'il y avait plein de groupes à l'époque qui, après cette vague punk, tentaient de surfer sur la vague, et il disait les mecs, ils arrivaient en costard et ils enfilaient un perfecto avant de monter la scène, sur scène, et nous qu'est-ce qu'on faisait? Et ben on faisait l'inverse,
ouais.
Bam, ok, je m'égare, mais je trouve que ça illustre bien ce mouvement.
Ah ouais, grave, quand même, ouais. Et c'est ouf que ça a réussi à qu'un mouvement ait réussi à créer cet autre mouvement-là, quand même, parce qu'ils sont quand même censés être un peu antinomiques.
Ouais, ça a popé un peu de tous les sens.
C'est incroyable, ok.
Et on va s'écouter les Phillies avec Loveless Love. Vous allez voir, ça monte. On est sur un beau crescendo.
Allez, on va dans ce camailleux de post-punk.
Together tonight, I was raised by different standards.
Donc c'était les Phillies avec Loveless Love.
Et allez, on enchaîne sans transition et pas du tout dans un camaïeu de post-punk avec John et Philippa Cooper. Donc rien à voir hein, avec du post-punk, là on est plutôt sur de la folk rock. Mais c'est un groupe sud-africain. Que j'ai pas passé du coup dans l'épisode où on se faisait un petit road trip du continent africain et j'avais fait une partie sur l'Afrique du Sud. J'ai failli les mettre mais je les ai pas mis, tout simplement aussi parce qu'il y a pas grand chose à dire sur ce groupe.
On sait d'accord, pas bah on va s'écouter les Cooper.
Non, tout ce qu'on sait, c'est que ce sont un frère et une sœur, du coup, qu'on en a appris un peu plus sur eux suite à la réédition de leur LP en 2003 et en 2010. On a notamment appris que par leur guitariste Julian Paxton, qui était aussi guitariste d'un groupe plus tard de sud-africains un peu plus connu quand même, les Freedom Children, dont on a parlé dans l'épisode sur 100% Afrique. Bref, donc on a appris qu'il se barrait en Grande-Bretagne juste après avoir fait cet album. Et ça sent, parce que leur son il est quand même très empreint de folk rock, et pas n'importe laquelle, mais la folk rock britannique, notamment des Fairport Convention. Et comme tu sais que je surkiffe Fairport Convention, je ne peux que surkiffer ce groupe. Donc allez, on s'écoute Mad Professor de Philippa and John Cooper.
Where the morning comes, he's on to work.
Et donc c'était The Mad Professor de John Philippa Cooper.
C'était vachement bien, on est sur deux salles, deux ambiances.
Ouais, hein. On est vraiment sur deux salles, deux ambiances, mais bon, c'est aussi, ça fait partie de, des coups de cœur. Hein.
Bah, c'est pour ça que moi je vais continuer sur du.
Camaïeu de post-punk.
Exactement, et on va s'écouter les Fall.
Ah, bah oui, les Fall, forcément.
C'est un groupe.
Ça, tout le monde connaît les Fall quand même, peut-être pas à la toute début
bon,
de période.
C'est, oh, qu'est-ce que t'es pédant, tout le monde connaît les Fall. Non, tout le monde connaît pas les Fall, c'est pas grave.
Ils
c'est
ont
pas
une grande carrière Fall, en tout cas.
Oui, alors inspiré donc de Fall, inspiré de, d'Albert Camus, La Chute. Donc c'est un groupe à l'univers complètement désenchanté et complètement zinzin, burlesque, grotesque. Alors je dis un groupe, mais en fait il s'agit d'un type, Mark E. Smith, qui change de formation régulièrement, chiffre à l'appui. Impossible, en fait, le mec il changeait de musicien tous les 6 mois en moyenne. Alors sur 40 ans de carrière, de 76 à 2018, je vous laisse faire le calcul, moi j'ai pas toutes les skills en arithmétique pour calculer ça. Alors il est décédé en 2018, RIP. Donc,
in peace.
Rest in peace. Rest in peace. Alors il faut savoir que à Manchester, à la fin des 70s, The Fall, c'était un groupe ambassadeur de la nouvelle vague très underground, un autre Warsaw qui deviendra plus tard Joy Division, c'était un peu concurrent quoi. Et donc Mark E. Smith, c'est un personnage assez misanthrope mais aussi ultra prolifique. 36 albums studio, 20 albums live, 10 compiles. Écoutez toute sa disco, c'est une épopée. Moi, j'ai pas le temps.
40 ans de carrière.
Je peux vous raconter un petit peu ma vie. J'ai envie de vous raconter.
Bon, allez, de toute façon, c'est la dernière. Vas-y. Hein.
Un le mec tout petit blasé, peu ma vie.
C'est, allez, vas-y. Voilà,
parce que j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de voir Mark E. Smith sur scène dans une mini salle à Liverpool l'année de mes 20 ans par hasard. Alors, la chance de le voir à Liverpool, pourquoi ? Parce que il peut pas blairer cette ville en tant que mancunien. Et du coup, le mec, il a passé les deux tiers du concert à chanter dans les backstage, donc on le voyait pas. Et quand il débarquait, c'était pour désaccorder ses musiciens. Et en gros, le mec, il nous a chié dessus et on adorait ça. C'est une espèce d'expérience scatophile collective, tu vois. En famille en plus, parce que j'étais avec mes frangines.
Ah, bisous, ouais. On va enchaîner là, parce que.
Non, mais en tout cas.
En famille.
En tout cas, c'est un misanthrope adoré. On adore. On va s'écouter Totally Wired 1979 de Fall.
I'm totally wired.
I'm totally wired. I'm totally wired. I drank a jar of coffee and then I took some.
Et donc c'était The Fall avec Totally Wired.
Totally Wired.
Bon bah c'était agréable ce petit camaïeu de post-punk là.
Merci.
Dans tous les cas, je pense que bah la saison prochaine, on fera peut-être un épisode là-dessus. Ça peut valoir le coup. Mm. Même si tu nous as bien introduit ce genre musical. Et bah histoire de pas changer, moi je vais faire un 180 degrés encore une fois.
C'est un petit ping-pong.
Voilà, un petit ping-pong. Moi je vais rester très ancré fin des années 60, début des années 70, avec les, pour ne pas changer de nom de merde, Ultimate Spinach.
Spinach
les... Spinach.
Donc les quoi les épinards ultimes.
Les épinards ultimes.
Voilà. Ouais, voilà. Ouais.
Donc qu'est-ce que c'est que les épinards ultimes? Bah, c'est un groupe de Boston formé en 67. Un groupe assez majeur quand même du mouvement psych-rock, acid-rock aux États-Unis, notamment parce que, encore une fois, c'est une histoire de producteur.
T'adores les histoires de producteurs.
J'adore les histoires de producteurs, mais j'aime bien les coulisses du rock. Non, parce que Alan Lorber, du coup, leur producteur, a voulu fonder une sorte de marque un peu chelou qui s'appelle les Boss Town Sounds, mais Boss avec deux S, donc les Boss Town Sounds, qui est une sorte de campagne de pub pour promouvoir le rock de psyché de Boston et la pop psyché de Boston, pour s'opposer un peu à l'écrasante production de San Francisco et de Los Angeles qui dominait de ouf le marché à l'époque. Et du coup, avec des groupes comme Orpheus ou les Beacon Street Union, comme les St. John's Green, Ultimate Spinach qui était censé être la tête de proue de ce projet, quoi. Comme St. John's Green, ça n'a jamais vraiment marché. Néanmoins, ce groupe, je le trouve vraiment très attachant, un peu comme les Peanut Butter Conspiracy. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Je vous ai pas mis Mindflower, mais je vous le conseille aussi. C'est bien, bien, bien psyché, bien, bien barge. Et tout ça, c'est dans leur premier album éponyme qui a été écrit en 68. En fait, ce qu'ils font, c'est que c'est vraiment très expérimental, notamment sur l'audio. Ils font beaucoup de mettre beaucoup de fuzz, de délai, de trémolo et de wah-wah, ce qui n'était quand même pas si courant que ça à l'époque. Donc, je vais vous mettre Ballad of the Hip Death Goddess. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si j'ai bien traduit, mais je pense pas, ça veut dire la ballade de la déesse de la mort de la hanche. Venant d'un groupe qui s'appelle les Épinards Ultimes, c'est un vrai trip hallucinogène.
Allez, en fait, je dis rien parce que j'essaie de m'imager le truc, mais
non, j'ai pas réussi.
Un peu de mal.
Allez, Ballad of the Hip Death Goddess.
See the glazed eyes, touch the dead skin, feel the cold lips, and know the warmth of the hip death goddess. Touch my hand and you will grow old. Touch my hand, your heart will grow cold. Come, let me take you in my arms. I will keep my lips, for they are very nice. Kiss my lips and you will turn to ice. Look at me and I will turn you on. Don't try to think because
come and look into my frozen eyes. Come and let me free from life's lies. I am the hidden goddess of your dreams.
Et donc c'était les Ultimate Spinach avec Ballad of the Hip Death Goddess.
Et c'est peut-être le dernier son de la saison puisque c'était les fonds de tiroir, une émission qui déterre les vieux machins, et c'était le dernier épisode.
Et ouais, on se retrouve du coup pour la saison prochaine à partir de septembre, octobre, quelque chose comme ça. En attendant, vous pourrez nous retrouver tous les étés, pendant tout l'été sur Radio Campus Paris.
Et on voulait remercier pour cette saison beaucoup de personnes. On voulait remercier Radio Campus Paris, on voulait remercier Xavier et Lucie pour leurs magnifiques illustrations, tous nos amis sans qui on n'aurait pas pu réaliser ces émissions, puisque c'est aussi un partage de cette passion qu'on a pour la musique.
Ouais, hein, du coup, en attendant qu'on se revoie, n'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que seront diffusés les nouveaux épisodes.
Un like donné, deux likes rendus.
Ce sera toujours un lundi par mois, du coup sûrement le dernier, mais à 21h comme pour cet épisode. Donc checkez, et ça sera peut-être en plus sur d'autres radios, mais ça on vous la garde la surprise, checkez nos réseaux
sociaux. Tiens, et en attendant on va vous quitter sur les Poppies. Non, rien n'a changé, tout a continué, puisque la
quoi
vie n'est qu'un...
Mais c'était pas la dernière truc là,
Et non, on a envie d'écouter les Poppies.
Tu veux écouter les Poppies, allez,
tu sais pourquoi?
Histoire de bien finir.
Parce que là, tout est un éternel recommencement.
Écoute, moi du rock,
rien n'a changé.
Comme ça pour finir la saison, moi je vous dis oui, allez on s'écoute les Poppies.
Gros bisous et bel été.
Bisous.
Mais tout a continué. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, rien n'a changé. Tout a continué.
Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous, et pourtant bien des gens sont mis à genoux pour prier.
Oui, pour prier.
Pour prier.
Oui, pour prier.
Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré.
Oui, j'ai pleuré.
J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que
non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, rien n'a changé. Tout a continué.
Moi, je pense à l'enfant entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps.
Oui, tout le temps.
Tout le temps.
Oui, tout le temps.
Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là.